Imaginons un instant le scénario suivant. Demain matin, une personne est embauchée comme PDG d'une immense multinationale. Et attention, c'est pas parce qu'elle a un diplôme d'une grande école, ni pour ses 20 ans d'expérience dans le domaine. Non, c'est uniquement parce que son arrière-grand-père était un membre super respecté de la communauté.
Ah ouais, dans le monde moderne, ça semble complètement absurde.
Mais totalement. Le mérite individuel, c'est devenu notre religion, quoi. Mais si on remonte le temps de 2000 ans pour atterrir au 1er siècle de notre ère, ce scénario, c'était pas du tout absurde. En fait, c'était même le système de navigation sociale par excellence.
Et c'est exactement ce contraste brutal qui rend le décodage de l'Antiquité si complexe. Parce que notre tendance naturelle, c'est toujours de projeter nos idéaux modernes sur le passé. Aujourd'hui, on perçoit la famille comme un sanctuaire émotionnel, tu sais, un refuge privé loin du chaos du monde.
Ouais, un endroit pour se détendre.
C'est ça. Mais à l'époque, la famille, c'était pas du tout un groupe affectif. C'était littéralement le socle absolu de la survie physique, de l'identité légale et de toute la structure économique.
Et c'est vraiment le cœur de notre exploration détaillée aujourd'hui. On plonge dans les notes de cours du docteur David de Silva sur le monde culturel du Nouveau Testament. Et notre mission, c'est de comprendre les réalités quotidiennes et la mécanique de la parenté dans ce monde antique.
Tout à fait.
Je précise d'ailleurs tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, que tous les textes judéo-chrétiens ou gréco-romains qu'on va aborder ici seront traités sous un angle purement historique et sociologique. C'est vraiment de simples fenêtres ouvertes sur la société de l'époque, rien de plus.
Et pour regarder par cette fenêtre sociologique, il faut commencer par jeter à la poubelle notre concept moderne du self-made man. Dans une société agraire, sans mobilité sociale et surtout sans base de données numériques pour vérifier le CV de quelqu'un, la confiance devait s'ancrer dans quelque chose de permanent.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Les sources qu'on a utilisent une analogie que je trouve super parlante. De nos jours, les trois règles d'or de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Dans le bassin méditerranéen antique, la règle absolue pour déterminer la place de quelqu'un dans le tissu social, c'était le lignage et le lignage.
C'est exactement le terme. Et la rigidité de ce système, elle est frappante quand on lit des textes historiques comme ceux d'Esdras et de Néhémie. Ce sont des documents qui racontent la réorganisation complexe de la nation d'Israël, juste après le traumatisme de l'exil à Babylone.
Une période de crise totale, quoi.
Ouais, c'est une reconstruction à partir de zéro. Et au retour des exilés, l'intégration à la communauté, et surtout la hiérarchie interne pour le sacerdoce, ça dépendait entièrement de la capacité à prouver physiquement sa généalogie.
Ah ouais, il fallait les papiers.
Voilà. Ceux qui ne pouvaient pas produire ces registres, ils étaient exclus des rôles clés. Dans un monde qui cherche à se rebâtir après un effondrement pareil, le sang, c'était la seule preuve vérifiable de loyauté. Le capital social était 100% hérité.
En gros, ça fonctionnait littéralement comme un CV, mais combiné à une cote de crédit. D'ailleurs, en lisant les apocryphes, ces textes anciens non retenus dans le canon officiel, on tombe sur l'histoire fascinante de Tobit.
Ah, l'histoire d'Azaria, oui.
C'est ça. Tobit doit envoyer son fils pour une mission lointaine et hyper dangereuse, avec une somme d'argent colossale. Donc il cherche un compagnon de route pour lui. Et il rencontre ce type, Azaria. Et au lieu de lui demander, je sais pas, s'il sait se battre ou s'il connaît bien la route, Tobit exige immédiatement de connaître sa tribu et sa famille.
C'est la priorité numéro un. Et ce qui est fascinant ici, c'est que dès qu'Azaria révèle qu'il est le fils du grand Hanania, un homme super respecté, l'attitude de Tobit change du tout à tout.
Il est rassuré instantanément.
Exactement. Parce que l'honneur d'un individu commence par l'honneur de ses ancêtres. Point barre. Tobit confie son propre fils et toute sa fortune à un parfait inconnu, uniquement en se basant sur la réputation de l'arrière-grand-père ou du père de ce type. Le mérite individuel, ça n'existait quasiment pas.
C'est dingue quand on y pense, et je trouve que cette obsession pour les ancêtres, ça éclaire d'un jour complètement nouveau des textes qui, franchement, nous paraissent souvent super arides. Je pense à l'ouverture de l'évangile de Matthieu.
Ah oui, la fameuse liste.
Ouais, pour un lecteur des 21e siècle, commencer un livre par une liste ininterrompue de 42 générations, ça ressemble à un bug d'édition. C'est aussi passionnant que de lire la notice de ma machine à laver, honnêtement.
C'est clair que ça peut rebuter. Mais pour un public du 1er siècle, omettre cette généalogie sera immédiatement disqualifier le livre entier. C'est une revendication sociologique et politique majeure. Dès la première page, l'auteur établit que le personnage central, Jésus, est l'héritier légitime des promesses historiques faites à Abraham et à David.
C'est son pass VIP, en fait.
C'est son pass VIP. Et en plus, il y a un détail numérologique fascinant. La structure même de cette liste cache un code. En hébreu ancien, on n'utilisait pas nos chiffres arabes. Les lettres avaient une valeur numérique. Et si on additionne la valeur des lettres composant le nom de David, on obtient très exactement 14.
Attends, vraiment, 14 tout pile.
Tout pile. Donc, en structurant sa généalogie en trois groupes de 14 générations, le texte utilise une clé culturelle cryptée pour marteler l'appartenance à la lignée royale de David. C'est du génie éditorial pour l'époque.
Ah, c'est génial de voir ça comme ça. Mais du coup, puisque le sang dicte absolument tout, on pourrait facilement se dire que les frontières de la famille, c'était des murs de béton armé infranchissables. Sauf que, en épluchant les recherches du docteur De Silva, on se rend compte que cette notion de parenté, elle était en fait super élastique.
Oui, c'est très fluide, étonnamment.
Oui, elle s'étendait ou se rétractait vraiment en fonction de la pression extérieure, non ?
Absolument. C'est un mécanisme de défense sociale très sophistiqué. Prenons l'exemple d'un village de Judée au 1er siècle, tel que décrit dans les sources. En temps normal, la routine, c'est la division. Les habitants s'identifient à leur petit clan spécifique. Ils vont se disputer âprement pour un bout de terre ou pour l'accès au puits. À ce moment-là, le cercle de la famille est très, très restreint.
Chacun pour soi et son petit clan.
Voilà. Mais si une cohorte de soldats romains lourdement armés traverse ce même village, la présence de cette force écrasante, de cet intrus, ça redessine instantanément la carte sociale. Face à la menace, tout le village se sent et agit comme une seule famille hyper soudée.
C'est l'union sacrée.
C'est ça. Et dès que les soldats disparaissent à l'horizon, paf, les divisions claniques reprennent leurs droits.
C'est fascinant de voir à quel point cette élasticité a d'ailleurs été utilisée par certaines figures historiques pour bousculer la société. Jésus, par exemple, il passait son temps à élargir cette définition de la famille face aux divisions. Quand il parle à cette femme infirme, qui est totalement rejetée par la société, il l'appelle publiquement « fils d'Abraham ».
Oui, il lui redonne son statut familial.
Et pareil pour Zachée. Le type est un collecteur d'impôts corrompu, vu comme un traître vendu aux Romains, et pourtant Jésus dîne chez lui et le déclare lui aussi fils d'Abraham. Il utilise le vocabulaire le plus puissant de leur culture pour effacer les frontières.
Et ce contexte, ça change aussi la lecture qu'on peut avoir d'autres histoires très connues, comme la parabole du fils prodigue. Le docteur De Silva fait remarquer qu'elle devrait plutôt s'appeler l'histoire des deux frères.
Ah ouais, pourquoi les deux frères ?
Parce que dans une culture où l'harmonie familiale est la valeur absolue, aucun des deux ne respecte le père. Le plus jeune dilapide tout l'héritage, d'accord ? Mais le grand frère, en refusant d'entrer au banquet pour fêter le retour de son cadet, il humilie publiquement son père devant tous les invités. Pour l'éthique de l'époque, c'est une faute impardonnable.
Alors justement, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? J'avoue que j'ai eu un peu de mal à capter pourquoi cette quête d'harmonie interne était aussi extrême, presque vitale. Dans les notes, on parle de l'économie des biens limités. En gros, il voyait la richesse et l'honneur comme un gâteau de taille fixe. Mais il n'y avait aucune idée de création de richesse.
Non, aucune. Et c'est très dur à concevoir pour nous. Notre monde est basé sur la croissance économique. On invente une application et hop, on crée de la valeur de nulle part. Mais dans le monde antique, qui est agraire, la technologie ne bougeait presque pas. Il n'y avait pas de nouvelles terres arables qui apparaissaient par magie.
Donc le gâteau ne grossissait jamais.
Exactement. Ce qui fait que mathématiquement, si ton voisin s'enrichissait ou gagnait en prestige, ça voulait dire qu'il avait forcément pris cette part à quelqu'un d'autre, probablement à toi. La vie quotidienne, c'était une compétition féroce, un jeu à somme nulle, sauf au sein de la famille.
J'adore cette analogie. C'est comme une équipe sportive, en fait. Dans l'Antiquité, on s'en fiche de marquer le but tout seul pour faire le show. L'important, c'est que l'équipe gagne, quitte à perdre un argument ou céder sur un héritage plutôt que de briser le groupe.
C'est tout à fait ça. Aristote écrivait même que la relation entre frères et sœurs, c'était le summum absolu de l'amitié humaine.
Le summum de l'amitié. Alors que nous, en Occident moderne, on trouve la rivalité fraternelle presque normale, voire saine pour le développement de l'enfant.
Pour eux, la rivalité fraternelle, c'était le pire cauchemar. Il y a d'ailleurs un rejet total de ce qu'ils appelaient la victoire cadméenne.
La victoire cadméenne.
Oui, ça vient du mythe grec d'Œdipe, où ses deux fils finissent par s'entretuer pour le trône. Une victoire cadméenne, c'est gagner en détruisant son propre frère. Pour les anciens, une victoire qui détruit la famille, c'est une défaite absolue.
Et ça allait super loin, même dans leur rapport à la vérité et au mensonge. C'était super moral de mentir à un ennemi pour protéger son groupe. Les sources donnent l'exemple de Judith dans les Apocryphes. Elle ment sans aucune hésitation au général ennemi Holoferne pour s'infiltrer et lui couper la tête. C'est vu comme de l'héroïsme pur.
Tout à fait louable.
Mais utiliser la même tactique de mensonge au sein de sa propre famille, c'était une honte inqualifiable. C'était traiter son frère comme un étranger.
Et cette solidarité interne absolue, elle s'explique parce que la famille antique n'était pas qu'un groupe de gens qui s'aimaient bien. C'était une nécessité économique. La maisonnée, ce qu'on appelle l'oikos en grec, c'était une entreprise de production avant tout.
C'est ça. Pas une famille moderne qui se rassemble le soir pour consommer du streaming et produire des poubelles. C'était une vraie start-up familiale impitoyable, où il n'y a aucune frontière entre vie pro et vie perso.
C'est une super métaphore. Aristote définit d'ailleurs le foyer avec l'homme au centre. Le mari, le père et le maître des esclaves. C'est la même personne. C'est le moyeu central de la roue. Et chaque membre de cette maison est un employé essentiel à la survie de cette unité de production.
Et ça touchait vraiment toutes les classes sociales, n'est-ce pas, Evelyne ?
Ah oui, de haut en bas. T'avais le sénateur romain patricien qui gérait des dizaines de domaines agricoles gigantesques avec des centaines d'esclaves. Et à l'autre bout, la petite famille d'artisans modestes.
Comme la famille de Jésus, par exemple.
Parfait exemple. On l'imagine souvent comme juste Joseph le charpentier dans son coin. Mais en réalité, c'était une petite industrie. Joseph travaillait le bois ou la pierre. Marie et potentiellement les demi-sœurs s'occupaient des livres de comptes ou de l'artisanat textile. Tout le monde participait.
Mais c'est pareil avec l'industrie de la pêche. Les sources parlent des foyers de pierre ou de zébédé. À Magdala, l'archéologie a révélé des maisons avec des pièces un tiers dédiées uniquement au salage du poisson.
Bah oui, sans réfrigérateur, le poisson pourrit en deux jours. Pour transformer la pêche en richesse durable, il fallait saler vite. Et ça, c'était le travail de toute la maisonnée à l'intérieur même du foyer. D'ailleurs, si on relie cela à une perspective plus large, cette gestion stricte des ressources de la maison, l'oikos, ça a donné le mot grec oikonomia.
L'économie.
Exactement. Le mot économie vient littéralement de la gestion du foyer antique.
C'est pour ça que les mariages à l'époque n'avaient rien de romantique. C'était l'équivalent antique d'une fusion-acquisition d'entreprise. On alliait deux unités de production.
C'était des alliances purement stratégiques.
Et c'est fou de voir comment ces fusions se défaisaient. Sur le divorce, il y avait de grosses différences régionales, non ?
Oui, très marquées. En Judée, sous la loi juive, seul l'homme pouvait initier un divorce. Mais dans le reste du monde gréco-romain, c'était bilatéral. L'homme ou la femme pouvait demander le divorce. Et dans ce cas, la femme retournait simplement chez son parent mâle, le plus proche, en reprenant sa dot.
Donc, si la maison est une entreprise de production impitoyable et que le père en est le PDG, quelle était la condition exacte des autres membres nucaires ? Parce que la hiérarchie m'a l'air extrêmement stricte, surtout concernant les femmes.
C'est le moins qu'on puisse se dire. L'idéal féminin de l'époque se résume en un mot, la soumission. Aristote et l'historien Joseph soulignent constamment la domination masculine. Joseph va même jusqu'à théoriser une infériorité naturelle de la femme.
Sympa l'ambiance.
Ouais. Plutarque utilise une analogie musicale assez révélatrice. Il dit que dans le mariage, l'harmonie est parfaite quand la note basse est jouée par l'homme et que la femme joue la note haute.
C'est-à-dire que la femme s'accorde, mais c'est l'homme qui donne le rythme et la mélodie de base, quoi.
C'est ça. Et cet idéal impliquait aussi le silence et une forte réclusion physique. Le philosophe Philon disait que les jeunes filles devaient rester derrière la porte du milieu de la maison et les femmes mariées derrière la porte extérieure.
Mais pourquoi les cacher à ce point ?
C'est toujours l'obsession de la généalogie. Le seul moyen de garantir à 100% la lignée d'un homme et d'éviter les héritiers illégitimes, c'était la chasteté stricte, réservée à un seul homme pour toute la lie, comme le loue le texte des 4 Maccabées.
Ok, là je dois faire une pause parce qu'il faut dissiper un mythe. Souvent, on entend dire qu'à cause de tout ça, les femmes antiques étaient légalement considérées comme des simples biens matériels, comme des meubles. C'est vrai ça ?
Ah, je suis ravie que tu poses la question. C'est un pur stéréotype moderne. C'est faux. Quand on dit les sources, elles n'ont aucun problème à qualifier les esclaves de propriété ou de bien. Le vocabulaire est très cru. Mais elles n'utilisent jamais, au grand jamais, ces termes pour les épouses.
Donc, elles n'étaient pas des objets.
Non, malgré la soumission exigée, elles étaient vues comme des associées essentielles, des partenaires minoritaires de la start-up familiale, si tu veux, sans droit de veto, mais indispensables à la gestion de la maison.
C'est une sacrée nuance. Et pour les enfants, alors, c'était pas non plus le Club Med. J'ai lu qu'il y avait cette idée d'une dette éternelle envers les parents.
Oui, la piété filiale. L'enfant naît avec une dette infinie envers ses parents juste pour lui avoir donné la vie. Et l'éducation, selon le Deutéronome, se faisait principalement à la maison.
Sauf pour les plus riches qui avaient des pédagogues. Mais attention aux faux amis, là encore.
Ah oui, le pédagogue antique, c'était pas un gentil prof des écoles. C'était un esclave. Son boulot, c'était la discipline. Il accompagnait l'enfant partout pour s'assurer qu'il file droit. Les vraies études intellectuelles ou sportives, ça se passait au gymnase pour les Grecs et les Romains.
Ce qui nous amène au pilier le plus sombre de cette société, l'esclavage. Impossible de parler d'économie antique sans mentionner ça. On parle d'une personne sur cinq dans l'Empire et même une sur trois dans les grandes villes.
C'est le moteur inséparable de l'économie antique. Aristote définissait froidement l'esclave comme un outil vivant. Il disait que la seule différence entre un marteau et un esclave, c'est que l'esclave respire.
Waouh ! C'est d'une violence inouïe. Et pourtant, le spectre des conditions de vie des esclaves était incroyablement vaste, non ?
Très vaste. D'un côté, tu as la mort rapide et atroce dans les mines de sel ou de cuivre. Et à l'extrême opposé, tu as les esclaves affranchis de l'empereur Auguste. Certains amassaient une richesse et un pouvoir politique immense. À Éphèse, par exemple, on a retrouvé des portes monumentales sur la place publique, financées et construites par ces affranchis impériaux.
Donc le système broyait des millions de gens, mais créait d'étranges ascensions sociales au sommet. Bon, on a bien posé le tableau. On a ce CV généalogique en béton, une hiérarchie stricte, une entreprise de survie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez l'onde de choc quand certains penseurs ont commencé à débarquer pour dire « Mais et si on changeait tout ça ?»
C'est une révolution totale. Tu as des penseurs comme Philon d'Alexandrie qui redéfinissent la parenté. Ils commencent à dire que la famille, ça ne se mesure plus seulement par le sang, mais par le partage de valeurs moraux. Il va même jusqu'à dire que changer de croyance peut dissoudre les liens du sang.
Ce qui donnait un refuge à ceux qui étaient exclus de leur famille pour s'être convertis.
Exactement. Ils trouvaient un nouveau foyer idéologique.
Et Jésus pousse le concept encore plus loin. Il dit des trucs qui devaient sembler complètement fous à l'époque. Du genre « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Dire ça à une société obsédée par la généalogie, mais en échange, il promet une nouvelle famille au centuple, avec des frères, sœurs, maisons partagées.
Et cela soulève une question sociologique majeure. L'Église primitive, comme on le voit dans la première épître de Pierre, adopte ce concept de parenté fictive. Ils prennent toutes les valeurs de l'oïkos antique, coopération, entraide absolue, harmonie, et ils les appliquent à des gens qui n'ont aucun lien génétique entre eux.
Ils piratent le système, en fait.
C'est ça. Ils transforment des petits foyers naturels limités en vastes réseaux idéologiques et de soutien à travers tout l'Empire.
C'est une immersion incroyable. Pour résumer rapidement, on a démarré avec cette idée de CV basée sur l'arrière-grand-père. On a découvert cette start-up familiale antique, un peu impitoyable, qui luttait pour sa survie, pour finir sur cette idée hyper subversive de choisir sa famille selon ses valeurs. Franchement, comprendre ce contexte, ça change radicalement la façon de lire n'importe quel texte antique.
Tout à fait. Et ça prouve surtout que la famille n'a jamais été un concept statique ou figé dans le marbre. Ça a toujours été une stratégie d'adaptation fascinante de l'humanité pour survivre dans un monde difficile.
Un monde difficile, ouais. Et ça m'amène à une réflexion pour clôturer notre analyse. On a vu tout à l'heure que la définition de la famille s'élargissait face à la menace, comme avec ce village de Judée qui se soude quand la patrouille romaine approche. L'adversité créait du lien. Et on peut se demander, aujourd'hui dans notre monde moderne, avec un confort matériel sans précédent et sans grande menace de survie au quotidien, est-ce que cette sécurité ne serait pas la vraie cause de l'isolement individuel qu'on vit actuellement ? Est-ce que l'absence de péril nous a fait oublier comment faire famille au sens large ? Une petite réflexion à méditer pour notre public. Sur ce, restez curieux, gardez l'esprit critique et on se retrouve pour la prochaine exploration détaillée.
À bientôt !